autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, autour de notre dernière table ronde de la saison, avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Avis aux amateurs de belles lectures estivales. Nous sommes en direct avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Caroline Tourbe de Science et Vie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et Philippe Pajot de La Recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, il sera question du hasard et de notre perception du temps, des neurones ennemis et alliés dans la lutte contre le cancer, et enfin de notre intuition à développer en toute connaissance de cause. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse? Bienvenue. Bienvenue pour demander la Lune et l'observer tous ensemble. Où que vous soyez sur la Terre, vous êtes invités, chers amis auditeurs et internautes, dans la nuit du 12 au 13 juillet, à sortir dans la rue, avec votre télescope, votre lunette astronomique ou même vos jumelles, pour partager avec tous les passants un moment magique d'observation de la Lune. On the moon again, ce week-end, sur tout le globe. Nous sommes partenaires, vous le savez, amis auditeurs qui avaient participé à notre jeu concours, Pourquoi viser la Lune. Notre lauréat, Christian Gbaba, jeune étudiant en géologie à Lomé, au Togo, a bien reçu sa lunette astronomique offerte par RFI. Il est fin prêt à la sortir. Il nous a même déjà envoyé des photos dans les rues de Lomé pour partager un moment astronomique avec ses voisins. Et il ne sera pas tout seul. La preuve avec ce clip de l'événement On the Moon Again, où l'on retrouve, excusez du peu, Hubert Reeves, Claudie et Jean-Pierre Aigneret, Cédric Villani, Étienne Klein, Maram Kéré, mais aussi Julie Gaillet, Florence Porcel, Gérard Jugnot et Jean-Pierre Daroussin. On the Moon Again, avec Hubert Reeves pour commencer.
En juillet 1969, des quantités de personnes suivaient les premiers pas d'un homme sur la Lune.
J'avais 11 ans, mon père nous avait réveillés avec mes frères à 2h du matin et à 3h56.
Un événement incroyable, extraordinaire.
Un exploit technologique immense.
On a vu un homme poser pour la première fois son pied sur la Lune.
Armstrong descend l'échelle du LEM et là, il se laisse tomber sur la Lune.
Il y avait 600 millions de gens devant leur télévision qui regardaient ça, moi j'étais de ceux-là.
Alors évidemment, moi j'étais pas née, mais 50 ans plus tard, on a envie de retrouver cet engouement.
Retrouver cette sensation.
De revivre cette émotion.
Alors si vous avez un instrument, un télescope.
Ça peut être des jumelles, une petite lunette, évidemment un télescope, un énorme télescope.
Installez-le au coin d'une rue, au bord d'une rivière, sur la place d'un village.
Et invitez les passants.
Invitez vos voisins, invitez vos amis.
À observer la Lune et partager l'émerveillement.
Rejoignez l'événement On the Moon Again les 12 et 13 juillet 2019.
Tous, au même moment, partagez la Lune comme il y a 50 ans.
Je vous encourage à faire ça, ça va être super convivial.
C'est une occasion de créer du lien.
Et partager l'émerveillement de regarder la Lune.
Descendez dans la rue, rejoignez On the Moon Again.
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 Les 12 et 13 juillet, partagez l'émerveillement.
Qui va partager l'émerveillement, comme le dit Hubert Reeves, Philippe Pajot, vous allez sortir un télescope, une lunette.
Certainement, et l'avantage de la Lune, c'est quand même, c'est le seul astre qu'on peut voir la nuit, même dans des villes avec de la pollution lumineuse comme Paris. Donc il ne faut absolument pas hésiter, que vous soyez dans un village, dans une petite ville, même dans une grande ville, vous verrez des très très belles choses, avec une jumelle ou une lunette de un télescope de 10 cm. Vous verrez des choses sur la Lune, vous verrez les mers, les cratères. Alors vous ne verrez pas évidemment des petits détails, notamment le drapeau américain qui a été posé le 21 juillet, vous ne le verrez pas parce que c'est quelque chose de tout petit. En gros, avec une lunette de 10 cm, vous voyez des détails de 2-3 km. Donc vous voyez, on n'y est
donc
pas.
Donc notre lauréat avec sa lunette astronomique ne verra
aucune
pas le drapeau américain depuis Lomé au Togo.
Mais un spectacle magnifique.
Et ce spectacle, il sera magnifique partout, donc à New York, à Bombay, à Mexico, à Dakar, à Lomé, où Christian Gbagba va nous faire partager sur les réseaux sociaux en photo ces moments astronomiques. Allez, je ne résiste pas à vous relire le texte qu'il nous avait envoyé et qui lui a permis de remporter cette lunette. Ma plus belle expérience autour de la Lune et celle qui m'a ouvert les portes de l'astronomie, c'était en décembre 2008. À l'époque, j'étais en classe de 4e. J'avais commencé à m'intéresser à l'observation de la Lune pour essayer de distinguer clairement ses phases et la durée de chacune d'elles. Un soir, aux environs de 18h, levant les yeux, je vis un fin croissant de lune, mais il n'était pas comme ce que j'avais déjà vu. Celui-ci était au milieu de deux autres astres que j'avais pris pour des étoiles. Le spectacle était trop beau, à la fois intrigant, tant que je décidais de comprendre. C'est bien plus tard que je sus que mes deux étoiles étaient en réalité des planètes, Jupiter et Vénus, et que c'était une conjonction que j'avais observée. C'est de cette soirée qu'est parti mon amour pour l'astronomie. Un croissant de lune m'a ouvert les portes du ciel. Qu'un croissant de lune nous ouvre les portes du ciel, c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter, de vivre ensemble dans la nuit du 12 au 13 juillet, donc sur toute la Terre, on the moon again, à suivre bien sûr sur nos ondes, sur nos pages et nos réseaux sociaux, autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Il est maintenant le oui, temps de prendre les dernières nouvelles du temps avec vous, Carole Châtelain, dans Science et Avenir. Vous tentez de percer les mystères du temps, celui des physiciens comme le nôtre, celui des simples terriens. Petite introduction avec cet extrait du film « Quel temps font-ils ?» Scénario signé par les physiciens Marc Lachaiseret et Étienne Klein.
Ah, te voilà. Je commençais à trouver le temps long.
Le temps ne peut pas être long. Ni court d'ailleurs. Il est ce qu'il est en temps. Comme toi.
Je voulais dire que le temps passe lentement lorsque je t'attends.
C'est gentil. Mais ce que je voulais dire, c'est que le temps passe toujours de la même manière.
Mais je ne suis pas d'accord.
Si, le temps des montres passe toujours de la même manière.
Tu vois bien que le temps ressenti ne s'écoule pas toujours de la même manière. Il n'est pas uniforme comme le temps qu'indiquent nos montres.
Personne ne sait vraiment ce que c'est, le temps.
Pourtant, tout le monde sait de quoi on parle quand on parle du temps.
Mais c'est un piège, le mot « temps » ne dit pratiquement rien de la chose qu'il désigne.
Parce que vous pouvez être compliqué, vous les jeunes. Non, je...
Bah vas-y, donne-moi une définition.
Bon, bah c'est facile, j'en ai au moins trois. Tiens, un. Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Deux. Le temps, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait. Trois. Le temps, c'est l'ordre des choses qui se succèdent.
Un peu facile tout ça. Moi aussi je peux le faire. Dire par exemple que le temps, c'est le devenir en train de devenir. Bien, c'est encore plus drôle. Que le temps est le moyen le plus commode qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. Tu vois bien que toutes ces expressions contiennent déjà l'idée du temps.
Indéfinissable le temps. Carole Châtelain, vous consacrez pourtant le dossier de Science et Avenir à notre perception du temps.
Oui, nous avons essayé de rendre le temps amusant, puisque c'est un dossier d'été, hein, pour les mois de juillet et août. Donc nous avons effectivement posé un certain nombre de questions que tout le monde se pose, c'est-à-dire qu'est-ce que le temps des physiciens versus le temps perçu. Mais nous avons aussi essayé d'aller plus vers l'anecdote. Par exemple, nous sommes posés sur la perception du temps, la question de savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on est enfant, le temps passe plus vite que lorsqu'on est plus âgé, et les chercheurs se sont penchés sur cette question.
Sur le temps subjectif.
Le temps subjectif. Donc il y aurait par exemple une échelle logarithmique qui expliquerait cette progression.
Ah, le fait que tout petit, quand on est tout petit, le temps semble beaucoup plus long.
Beaucoup plus long, effectivement, et même quand entre notre 5e et notre 10e année, ça serait équivalent à le temps qui s'écoule entre nos 40 ans et nos 80 ans, pour dire que voilà, ça s'écoule vraiment plus vite pour des raisons que nous expliquons, enfin des hypothèses en tout cas, que nous expliquons dans notre magazine. Mais on pose aussi des questions assez amusantes, par exemple sur les salades qui voient le temps passer la nuit, parce qu'elles comptent la nuit, les salades, figurez-vous.
Les salades comptent la nuit.
Exactement, hein, les salades comptent la nuit.
Pour ce numéro estival, mais on est dans un numéro de Science et Avenir.
Sommes dans un numéro de Science et Avenir, tout ça est très très sérieux, et donc nous expliquons des grands concepts, des grandes théories par l'exemple.
Et puis, si on feuillette ce double numéro, donc juillet ou de Science et Avenir, vous vous arrêtez aussi sur une autre question, comment dire, athlétique et discriminatoire pour les femmes, Carole Châtelain.
Oui, c'est une enquête que Rachel Mulot, notre journaliste, a menée, une enquête extrêmement dérangeante sur une polémique qui est en place, puisque l'Union internationale, enfin la Fédération internationale d'athlétisme a mis en place un règlement qui exige des athlètes qui ont un taux de testostérone jugé par elle trop fort par rapport à une norme, d'être traité, c'est-à-dire de suivre un traitement médical pour faire baisser ce taux de testostérone sous peine de ne pas pouvoir participer aux compétitions internationales.
Ah, carrément, totalement discriminatoire. Alors, et pourquoi est-ce que ces athlètes femmes devraient tester sur leur taux de testostérone?
Ce règlement est actuellement contesté devant un tribunal fédéral suisse qui va rendre sa décision à l'automne. Et ce règlement vise surtout des athlètes comme Caster Semenya, qui est une athlète qui est recordman athlétique de 800 mètres et qui effectivement a un taux de testostérone plus élevé que les autres femmes, puisque il existe effectivement chez certaines femmes des taux de testostérone plus élevés. Mais les études scientifiques sur lesquelles s'appuie la Fédération internationale d'athlétisme pour justifier qu'elles en tireraient des performances physiques supérieures sont excessivement contestées. Notamment, il y a une association internationale de médecins du sport qui refuse d'appliquer ces méthodes. Et qui plus est, les traitements qui seront imposés à ces athlètes, si jamais ce règlement devait passer, sont des traitements excessivement dangereux, puisqu'ils peuvent mener à des cancers, ils peuvent mener à des AVC, enfin, tout ça est très avéré. Donc on ne connaît pas non plus les conséquences sur des femmes dont c'est la nature d'avoir taux de testostérone plus élevé, de leur faire baisser ce taux, quelles pourraient être les conséquences et les effets secondaires.
Sujet grave. Quand sera le verdict?
C'est à l'automne, c'est d'autant plus important qu'il y a des championnats du monde qui vont se dérouler à Doha, au Qatar, en septembre. Mm-hmm. Et notre enquête est très poussée, puisque nous avons réussi à avoir une interview exclusive de Stéphane Bermond, qui est à l'Université de la Côte d'Azur et qui est le directeur du secteur sciences et santé de la Fédération internationale d'athlétisme, et qui est à l'origine, en quelque sorte, de ce règlement. Tout cela est vraiment inquiétant, même, puisque on va exiger de certaines athlètes on va déjà établir ce qu'est une norme, selon quels critères. Donc il y aurait une norme de la féminité.
Quel est le bon taux de testostérone?
Qui plus est, il n'est pas du tout avéré qu'elles en tirent des performances sportives supérieures, mais en plus, la testostérone n'est pas, et nous l'expliquons aussi, cette hormone purement masculine qui donnerait une masse musculaire supérieure. Ça, c'est un fantasme. La testostérone, c'est bien autre chose.
Donc, entre fantasme et réalité, attention donc à ces questions athlétiques et sportives. C'est à lire dans ce double numéro de Science et Avenir du mois de juillet-août, où vous retrouvez aussi en une les dernières nouvelles du temps et dont nous avons, chers amis auditeurs, je vous le rappelle, quelques exemplaires à vous faire gagner, à vous qui vivez loin d'ici. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Prenez votre temps avec les Daft Punk sur RFI Fragments of Time.
Crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would.
les Daft Punk sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On va maintenant s'interroger avec vous, Philippe Pajot, dans la recherche sur le hasard. Existe-t-il ou pas? Y a-t-il des lois du hasard? C'est le dossier de la recherche à découvrir après cette petite improvisation autour du hasard, portée sur la scène du théâtre de la Reine Blanche avec le labo Origine.
Il n'y a pas de hasard.
Oui, si même le hasard se mesure. Si tout ce qui se mesure ne peut pas être aléatoire, si tout ce qui se mesure n'est pas de hasard, s'il n'y a pas de hasard, si l'algèbre est à l'origine du monde, si le calcul est sa Bible et si je peux mesurer la longueur de mon espoir encore, loi faible des grands nombres, si la vie des individus est moyen, en moyenne, si dans le réel les individus croient vivre des vies d'exception, si les événements rares sont rares parce qu'ils n'arrivent en moyenne pas à tous les individus moyens, si les événements rares ont toujours les plus grandes conséquences, si gagner au loto, si mourir dans un crash de suicide, si bouffer des bactéries, si se faire une femme de chambre ne sont que des événements rares. Si aussi rares qu'ils soient, tous les individus en profitent quand ils arrivent. Si on peut tout calculer, tout mettre en équation, tout saisir en nombre. Si les queues de distribution n'intéressent personne. Si les queues de distribution, les restes, les abandonnés aux fermetures des boîtes de nuit, les soldes, les derniers petits fours dans un vernissage d'une galerie indé du 6e, les exceptions, les 6 au loto, les événements rares, n'arrivent jamais et n'intéressent personne tant qu'ils ne sont pas là. Alors, il n'y a pas de hasard.
Mais pourquoi le hasard est-il aujourd'hui, Philippe Pajot, au cœur de toutes les sciences? C'est le dossier de la recherche. Hein.
On parlait du temps tout à l'heure. Le hasard, c'est aussi un concept pas tout à fait facile à définir.
Hein. On l'a entendu, hein, je crois.
On l'a entendu. Bon, c'est pas mal de discussions. D'abord, la première question, est-ce que le hasard existe? Ça, c'est vraiment une première question.
Et alors,
il y a une question philosophique. Alors après, ça dépend des points de vue aussi. Du point de vue de la physique classique, on pourrait dire que, en fait, le hasard n'existe pas, simplement on ne connaît pas les choses assez précisément pour pouvoir les prédire, et du coup, il y a un hasard qui se manifesterait comme ça.
Mais ce ne serait pas du vrai hasard,
c'est
du hasard.
Pour nous, c'est du hasard. Après, le point de vue de la physique quantique, qui lui est très différent, dans lequel, là, il y aurait du vrai hasard, une sorte de hasard intrinsèque, parce que, fondamentalement, la physique quantique prévoit que lorsqu'on fait une mesure, il y a des choses qui sont hasard, et on a beau vouloir pouvoir connaître les choses aussi bien qu'on le veut, c'est la théorie elle-même qui nous empêche de connaître les choses. Donc il y aurait cette distinction entre vrai hasard et faux hasard. Et en fait, donc, parmi les articles que nous avons dans ce dossier, une dizaine d'articles autour du hasard, on a eu un avis un peu différent, justement, qui dit que lui-même, en physique classique, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi vue comme indéterministe, parce que, tout simplement, il y a un vrai hasard, parce qu'il y a un flou intrinsèque aux conditions initiales.
Donc c'est que même en physique normale, si j'ose dire, et pas classique, et pas quantique, il y aurait du hasard.
Voilà, alors c'est un peu subtil, c'est la manière de connaître les conditions initiales, donc liées au nombre, mais c'est vrai que c'est, en tout cas c'est un physicien, Nicolas Gisin, qui raconte ça de manière tout à fait convaincante, en tout cas de mon point de vue. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme le disait dans votre petit reportage, là, c'est que le hasard, petite pièce de théâtre, le hasard peut être calculé. C'est-à-dire qu'on peut...
On peut calculer le hasard.
On peut dire des choses sur le hasard. Et ça
c'est bien pour les jeux.
Ça, c'est bien. On ne peut pas prédire tout, mais on peut établir des lois du hasard. Et ça a été très très long à établir. En fait, c'est surtout en 1933, en fait, que... un mathématicien, physicien russe, Andrei Kolmogorov, en fait, a formalisé tout ça. Et la manière dont on peut interpréter ça, et on peut s'en servir après, est très intéressante, parce que ça permet de faire des choses plus efficacement, le hasard. Notamment, on fait des simulations en utilisant le hasard. Par exemple, si vous voulez calculer pi, il vous suffit de prendre
le nombre pi,
vous prenez des aiguilles, vous le lancez sur un parquet, vous comptez le nombre de fois où les aiguilles intersectent les lames du parquet, et vous pouvez en déduire pi. Donc ça, c'est l'utilisation du hasard dans un truc très simple.
Et pour jouer au dés ou jouer au casino, ça sert moins?
Alors pour le COD, ça sert moins, parce qu'effectivement, il y a des lois. Alors si les dés ne sont pas pipés, si le casino n'est pas pipé, si le hasard est uniforme, ce qu'on appelle uniforme, mm-hmm. effectivement, il n'y a pas de manière de prédire les choses. Autre exemple également assez récent, vous savez qu'il y a des jeux de Go maintenant par ordinateur extrêmement efficaces.
Mm-hmm. Qui battent les humains,
qui utilisent de l'intelligence artificielle, mais ça utilise également des algorithmes probabilistes. En fait, on joue des tas de parties au hasard, et en fait, en regardant la proportion de parties qui gagnent et de parties qui perdent, on peut en déduire les situations les plus efficaces, et c'est ainsi que sont conçus ces programmes.
C'est intégrer le hasard comme une donnée,
et c'est extrêmement utile dans toutes les sciences. Alors maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on peut le fabriquer, ce hasard? Parce que
fabriquer du hasard.
Ah oui, parce que c'est extrêmement.
Selon notre bonne volonté, finalement.
Selon notre bonne volonté. Mmh. Et donc, on peut se dire, il suffit de prendre un ordinateur qui va tirer des nombres aléatoires. En fait, un ordinateur ne sait pas faire ça. Parce qu'un ordinateur, c'est un objet déterministe, donc qui, en principe, ne sait pas faire du hasard. Alors, on fait ce qu'on appelle un pseudo-hasard. Ce sont des nombres qui vont ressembler au hasard, mais qu'on ne pourra pas distinguer du hasard, disons, avec des moyens de calcul habituels. Et pourquoi c'est important ça ? Parce que, justement, cet aspect aléatoire et cet aspect de hasard uniforme, il est au centre de la sécurité informatique. Autrement dit, si vous ne faites pas de bon hasard, eh bien, vous n'aurez pas de sécurité informatique. Ça peut se voir très simplement avec les mots de passe. Vous savez très bien que si vous choisissez un mot de passe au hasard, avec plein de caractères très bizarres, très longs, avec des nombres, des caractères, ça va être plus dur de trouver que si vous choisissez un 2, 3, 4, 5, ou password, ou même un nom.
D'où l'importance du hasard, et même de créer du pseudo-hasard.
Du pseudo-hasard, exactement.
Dossier complet sur le hasard, et même le pseudo-hasard, le hasard et ses lois, le hasard au cœur de toutes les sciences, à découvrir dans ce numéro pas du tout hasardeux, numéro double également, juillet-août, de la recherche dont nous avons, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous offrir en vous souhaitant un bel été à l'écoute de RFI et de Brigitte Fontaine. Ça commence bien, mais vous allez voir, à la fin, ça se gâte.
Oh ma folie, mon beau bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ces bassins, de ces jets d'eau, de ces enfants exaspérés, traînés dans la suie de l'été. Et se noyer pour se noyer, la mer serait moins étriquée. Oh ma folie, mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons. J'en ai assez du postillon et des litrons. Et des graillons et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé. Oh ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez des rues de Sèvres où les vieillards doucement crèvent dans l'indifférence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer. Oh ma folie, mon beau cancer, recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli.
Brigitte Fontaine sur RFI, le beau cancer, ce fléau qui tue plus de 8 millions de personnes chaque année. Le cancer, rappelons-le, est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Et les chercheurs redoublent d'efforts pour le comprendre, le détecter, le soigner. Nous recevions d'ailleurs ce lundi le biologiste de l'évolution Frédéric Thomas qui nous ouvrait sur une autre approche évolutive du cancer. Je propose de l'écouter avant de découvrir avec vous, Caroline Tourbe, dans Science et Vie de ce mois de juillet, d'autres pistes de recherche et de thérapie prometteuses liées aux mécanismes si particuliers évolutif donc du cancer. On écoute Frédéric Thomas.
Le cancer évolue, donc c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle pour les biologistes de l'évolution, c'est que s'il évolue, ça veut dire qu'on peut apprendre à gouverner son évolution. Et la bonne nouvelle, c'est que les cellules cancéreuses, comme toute entité vivante, sont régies par la sélection naturelle qui n'a pas d'objectif à long terme, qui n'a pas d'agenda. Mmh. Le cancer ne cherche pas intrinsèquement à nous tuer. Alors que nous, bien sûr, dans le cadre de nos thérapies, de notre intelligence, de notre stratégie, on peut mettre en place des stratégies qui vont consister à les berner, à les amener dans l'impasse, dans le mur, en tout cas là où elles ne seront pas responsables de notre décès.
Comment tenir le cancer à distance? Comment limiter l'agressivité des tumeurs cancéreuses? Vous nous faites découvrir Une nouvelle piste de recherche étonnante dans Science et Vie de ce mois de juillet, Caroline Tourbe, à partir d'une surprenante découverte, les tumeurs aussi ont des neurones,
des
presque
neurones,
un cerveau,
oui.
Enfin des neurones.
C'est tout un ensemble de recherches qui ont été menées par Claire Magnon, qui est une chercheuse française qui a travaillé aux États-Unis, qui maintenant est revenue en France. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les tumeurs, elles ont en effet une sorte d'organisation nerveuse, voire de neurones, qui leur permet de se développer. Pour revenir un peu sur la façon dont ça s'est joué, au tout début, il y a eu des observations cliniques, comme c'est souvent le cas en médecine. C'est-à-dire, on ne comprenait pas pourquoi certains patients qui étaient atteints de cancer particulièrement agressifs et qui par ailleurs étaient soignés avec des molécules qui avaient un lien avec une maladie cardiaque, quand ils avaient ces doubles traitements, ils s'en sortaient beaucoup mieux. On ne comprenait pas trop pourquoi. Ces molécules-là, c'était des bêta-bloquants qui ont une action spécifique sur l'adrénaline. Ils empêchent une certaine type d'action de neurotransmetteurs. Et en fait, partant de cette observation-là, il y a des chercheurs qui ont commencé à creuser, dont Claire Magnon, et qui se sont aperçus qu'en fait, il y avait des terminaisons nerveuses qui étaient à l'intérieur, des fibres nerveuses qui étaient dans les neurones, fibres qu'on n'avait jamais vues, parce qu'en fait, ça ne se voit pas au microscope. Il faut des techniques de visualisation plus complexes, par exemple comme l'immunofluorescence. Elle a réussi à faire ses observations et elle s'est aperçue que les tumeurs, elles étaient pleines de fibres nerveuses et qu'en plus, ces fibres nerveuses, elles étaient actives, c'est-à-dire qu'elles avaient l'air d'envoyer des messages et qu'en envoyant ces messages, ça faisait croître la tumeur.
Et que ces bêta-bloquants ou ces autres médicaments pouvaient agir sur ces
cellules
nerveuses.
En donnant de façon... C'était vraiment la coïncidence, en donnant des traitements pour le cœur à des patients qui étaient atteints d'un cancer, en fait on agissait sur leur tumeur et on empêchait la propagation et la croissance de la tumeur. Partant de toutes ces observations, elle est allée plus loin, Claire Magnon, et alors elle a tout récemment publié une recherche où elle montre que non seulement il y a des fibres locales qui vont aller dans la tumeur, mais il y a aussi des neurones qui viennent du cerveau et qui migrent jusque dans la tumeur.
Et qu'est-ce que ça change, ça, du coup? Prenez un peu d'eau, Caroline. Qu'est-ce que ça change, du coup, pour pour les traitements, pour les patients? Le fait de comprendre ça, ça permet quoi? D'envisager de nouvelles thérapies, de mieux comprendre le fonctionnement et le mécanisme de ces cellules?
Ça change plein de choses, en fait. Ça change plein de choses. C'est-à-dire que, non seulement on s'aperçoit qu'il y a une composition cellulaire plus complexe que ce qu'on imaginait dans les tumeurs. Dans les tumeurs, on savait, par exemple, jusqu'à présent, on avait bien observé un développement de vaisseaux, donc une sorte de système sanguin autour de la tumeur qui l'aidait à se développer. Voilà maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y a un système nerveux qui est dans la tumeur et que là aussi il l'aide à se développer. Mais ça va plus loin puisque comme elle a observé que c'était des neurones immatures qui venaient du cerveau pour descendre jusque dans les tumeurs, la question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est la tumeur qui est là, qui préexiste et qui appelle des neurones? Et ces neurones sortent du cerveau et vont jusque dans la tumeur, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que ces neurones sont relargués par le cerveau, via le système sanguin, arrivent jusqu'à une certaine zone, et là, développent une tumeur? L'œuf, la poule, qu'est-ce qui se passe? Autrement dit, ça ouvre aussi plein de questions sur l'origine et cause d'un cancer. On parle parfois du stress ou d'un impact émotionnel. Ce sont des pistes qui n'ont jamais été vraiment éclairées sur l'homme. Ce type de découverte permet de relancer clairement tout un volant de questions.
Un débat et de rappeler à quel point c'est multifacteur. Et à quel point on est loin d'avoir tout compris et permet aussi d'imaginer peut-être d'autres pistes, des pistes thérapeutiques. Les tumeurs aussi ont des neurones et comment s'en servir de tous ces neurones finalement et de tous nos neurones pour lutter plus efficacement contre le cancer, notre plus vieille, notre pire ennemi. Enquête à lire dans Science et Vie de ce mois de juillet, dont nous avons quelques exemplaires aussi à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on va maintenant s'intéresser à notre intuition, comment la développer, pourquoi si ou pas. C'est le dossier de Cerveau et Psycho qu'on ouvre avec vous, Cécile Estienne, juste après avoir écouté Feist, la Canadienne chanter précisément son intuition.
To be shown the way home, and it's not about a boy, although I'll know they can lead you home. In half, a love is not complete with only heat. And I can't tease you.
De Feist sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse, pourquoi, comment et quand nous fie à notre intuition ou pas. C'est le dossier très complet de Cerveau et Psycho, Cécile Lestienne, de ce mois-ci. Mais d'abord, qu'est-ce que l'intuition? Comment la définir? Écoutez ce qu'en dit le médecin chirurgien devenu psychothérapeute Thierry Janssen.
On peut considérer que l'intuition est un phénomène totalement naturel qui est à disposition de tous les êtres humains et qui réside sur notre capacité non consciente à analyser toutes les informations qui sont perçues par nos sens. Et c'est là tout l'intérêt de l'intuition, de développer ce sixième sens qui englobe tous les autres, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas.
Cécile Lestienne, que pourriez-vous rajouter à cette définition de l'intuition qui fait donc le dossier de Cerveau et Psychose?
Pour le dire autrement, on peut aussi dire que l'intuition, en fait, c'est la reconnaissance rapide et automatique de motifs ou de relations entre les éléments de notre environnement, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec ce qui vient d'être dit, voilà, mais qui explique pourquoi l'intuition, parfois ça marche, parfois ça marche pas. En fait, l'idée au départ de ce dossier, c'était aussi un petit peu pour aller chercher derrière les injonctions contemporaines. Ça, il y a plein de livres, libérez votre intuition, écoutez votre voix intérieure et vous prendrez les bonnes décisions et vous deviendrez riche et vous libérez votre créativité, etc.
Et vous trouverez l'amour et le bonheur.
Exactement. Donc, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce que les sciences d'ailleurs avaient à dire sur le sujet. Et qu'est-ce que dit ce dossier? C'est qu'effectivement, est-ce qu'on peut écouter son intuition? Oui. Parfois. Est-ce qu'on peut la développer? Oui, parfois. Et est-ce qu'il faut s'en méfier? Oui, parfois.
Voilà. Ah, c'est pas si simple que ça. Et pourquoi justement, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'en défier justement? Pourquoi ne pas lui faire confiance à son intuition? Parce que c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à dire, voilà, écoutons notre petite voix intérieure et tout ira mieux.
Pas forcément. En fait, l'intuition, c'est cette faculté justement à reconnaître des motifs, enfin des relations entre les éléments de notre environnement, ça marche que si vous êtes expert de votre domaine. Enfin, l'exemple classique, voilà, si vous apprenez à jouer aux échecs, je peux en parler parce que je ne sais pas du tout jouer aux échecs. Donc, voilà, quand vous apprenez à jouer aux échecs, vous êtes obligé de faire plusieurs parties, d'analyser ce que vous avez fait, de ce que fait votre adversaire, etc., etc. Et évidemment, les champions d'échecs, ils disent qu'ils sont à l'intuition, pouf, parce qu'ils ont reconnu, des motifs, voilà. Ils appellent ça des chunks. Voilà, d'ailleurs, on fait intervenir Fernand Gobet, qui est prof de psychologie cognitive à Liverpool et maître international d'échecs, voilà, et donc il explique très bien ça. Donc voilà comment on reconnaît ces motifs, mais vous les reconnaissez ces motifs parce que vous avez joué des centaines, des milliers de parties d'échecs. Voilà.
Donc ça se développe, l'intuition, travailler.
Ça peut se travailler, il faut, mais parce que ça ne fonctionne que quand justement vous connaissez assez bien votre domaine d'expertise. Donc voilà, et si vous pouvez aussi développer plusieurs domaines d'expertise dans votre vie, donc c'est même intéressant, mais vous ne développerez pas tout, voilà. Et pour libérer sa créativité, justement, parce que souvent on dit est-ce que c'est lié à l'intuition? Oui, enfin c'est comme dans l'art, voilà, faut briser les cadres, mais encore faut-il connaître les cadres. C'est une des façons de faire, c'est effectivement de faire des liens entre des concepts qui a priori n'ont rien à voir. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous connaissez justement les différents concepts. En science, une des façons parfois d'avancer, c'est de défendre l'opposé de ce qui est admis normalement. Mais pareil, vous pouvez le faire que si vous connaissez ce qui est admis normalement.
Donc l'intuition, c'est pas l'instinct en fait, c'est autre chose.
Eh bien, bah c'est en partie de l'instinct parce que ça nous paraît inconscient, effectivement. Parce que ça se fait. Pourquoi on a ce mode de pensée-là?
Parce qu'à notre insu, enfin.
Oui, alors on a ce mode de pensée-là parce que c'est beaucoup plus économique pour notre cerveau. Voilà. En fait, ne pas réfléchir, c'est beaucoup plus économique que réfléchir. Voilà. Donc, si à chaque fois on devait passer du temps à peser le pour et le contre, on prendrait beaucoup de temps
rien.
Pour le faire. Et donc, et c'est comme ça que les joueurs d'échecs peuvent jouer beaucoup plus vite que vous, parce qu'ils n'ont pas besoin de peser le pour et le contre pendant des heures avant d'avancer leur cavalier.
Allez, je vais citer la dernière phrase de ce dossier, puisque vous citez le philosophe Gaston Bachelard. Une intuition ne se prouve pas, mais doit s'expérimenter. Un bon oui. entendeur. Hein. Le dossier sur l'intuition, donc, c'est à lire dans ce numéro de juillet de Cerveau et Psycho, dont nous avons aussi un exemplaire à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, qui n'êtes pas au bout de vos surprises autour de la question comment la science infuse et pourquoi elle va peut-être enfin communiquer avec les extraterrestres, on écoute déjà Le Petit Martien de La Fanfare en pétard sur RFI.
Un de ces quatre matins, je me baladais dans la cité. Quand j'ai vu un petit martien qui m'avait l'air bien énervé, je lui ai dit: ouais, qu'est-ce que tu fais toi avec les trois doigts de pied? Il m'a dit: des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés, des bombes, des HP. Ok, man, on est sur la même longueur d'onde. Ça dirait qu'on se fasse un petit poulet au micro-ondes de seconde. Après, avec un flic qui tchatchait, il lui fait: well, toi t'es ouf avec tes cinq doigts de pied. Et là, c'est le drum. Le flic lui traîne sa gueule sur tous les trottoirs de Strasse. Direct son panier à salade me raconte: pas de salade. Man, je veux rien savoir. Et moi comme un petit con à côté, je me marre. Wap hop hop, là monsieur l'agent me loue pas. Il est déjà grave vénère, je me dis qu'faut pas que je lui tape sur les nerfs. Mais y'a rien à faire, j'arrive pas à me taire. A cause de ces petits martiens qui n'en finissent pas de faire le vieux. Yo, petit martien, pédé pédé petit martien. Tu n'es que des belles coutumes du monde auquel tu appartiens. Oh, petit martien, pédé pédé petit martien. Dans ta bonne chat chez moi, je trouve que ça le fait bien, ça le fait bien. Petit martien, des petits martiens, tu ne connais pas les coutumes du monde auquel j'appartiens. Des petits martiens, des petits martiens, pas de bonne chatte chez moi, je trouve que ça le fait bien. On sort du commissariat que les bleus autour de moi. Je suis devenu totalement fada avec des petits martiens. On décide de se faire à la malle, de partir loin, loin, loin. De mettre les voiles direction NYC. On veut des bons sons du hip-hop funky.
Le Petit Martien, c'est pour vous Caroline Tourbe, nous sommes bien sur RFI, La Fanfare en pétard, même plus besoin d'ailleurs de fumer la moquette pour envoyer des messages aux extraterrestres. C'est la une hein, de Science et Vie de ce mois de juillet. De nouveaux messages ciblés, Caroline Tourbe, ont été envoyés dans l'espace pour tenter de communiquer avec les extraterrestres. Exactement. Et ça soulève de nombreuses questions.
Ça soulève de nombreuses questions. Alors déjà oui, c'est vrai qu'il y a une actualité, c'est un sujet dont on a l'impression qu'on a déjà entendu beaucoup parler dans les années 60-70, il y a déjà des messages qui ont été envoyés. Puis là, coup sur coup, il y en a trois qui sont envoyés ou vont être envoyés et qui sont plus intéressants parce que c'est vrai qu'entre les années 70 ou les années 60 et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert des exoplanètes, on a localisé à peu près en gros la direction vers laquelle ben, ce serait plus affûté d'envoyer un message.
Là où peut-être il y a des extraterrestres.
Extraterrestres, exactement. Donc dans le dossier, on parle de la nature de ces messages évidemment et puis on parle ben, du problème, comment on fait pour choisir le bon contenu, le bon support, le bon code, le bon émetteur. On revient sur les grands messages qui ont pu être envoyés. Il y a plus de 32 messages donc, qui sont désormais en route vers peut-être l'extraterrestre qui aura l'oreille attentive. Et puis il y a aussi.
Et qui sera capable de les décrypter et de les comprendre.
Exactement. Enfin, bon, et oui. Puis il y a tout un papier qui est très intéressant autour de la question de est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et comme on l'entendait dans la chanson, est-ce que c'est une bonne idée pour l'humain? Mais peut-être est-ce que c'est une bonne idée pour l'extraterrestre qui du coup va venir nous voir, se faire arrêter par la police, tout ça.
Voilà.
Au panier à ça. Enfin, Bon,
faut peut-être pas envoyer des messages comme ça. Exactement. Ça peut être dangereux pour eux aussi.
Alors on rit avec ça, mais il y a un vrai débat entre scientifiques. Il y avait notamment Stephen Hawking qui avait dit il faut pas du tout entrer en communication. Et nous, on a eu plein d'autres chercheurs qui disent que si, bien évidemment, qu'il faudrait pas du tout empêcher d'entrer en contact une civilisation qui est aussi jeune que la nôtre, avec des civilisations qui sont peut-être beaucoup plus avancées et du coup qui pourraient nous apprendre tellement de choses.
Mais là, on en revient presque à un film de science-fiction, quoi. Voilà. Jusqu'où irons-nous? En tout cas, c'est à lire dans Science et Vie de ce mois de juillet. En attendant les communications du futur avec les extraterrestres, on va revenir avec vous, Philippe Pageot, sur notre passé archéologique dans la recherche. Vous publiez un grand entretien avec Dominique Garcia, le président de l'INRAP, l'Institut National d'Archéologie Préventive.
Exactement, c'est une sorte de bilan en fait. Ça fait presque 20 ans que l'INRAP existe aujourd'hui. Et donc Dominique Garcia fait un petit peu le point sur toutes ces fouilles qui ont eu lieu depuis 20 ans. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2000 fouilles quand même par an en France.
Et on profite en fait des travaux, des excavations pour fouiller et pour faire remonter un passé qu'on ne connaissait pas.
Exactement, en fait il y a 700 km² qui sont aménagés en France, sur le territoire français chaque année. Et sur cette surface-là, il y en a 10% sur lequel l'État prescrit des sondages archéologiques, et 2% de cette surface où il y a des fouilles extensives qui peuvent durer jusqu'à un an. Et ça couvre vraiment toutes les époques et tout le territoire. C'est ça qui est nouveau avec l'INRAP, c'est qu'en fait, vraiment, tout le territoire français est devenu un terrain archéologique.
Et du coup, permet des découvertes étonnantes. Vous avez un exemple?
Alors, j'ai quelques exemples. Par exemple, à Rennes, récemment, il y a une dépouille du XVIIe siècle qui renseignait sur les pratiques qui ont été découvertes et qui renseignait sur les pratiques chirurgicales et funéraires de cette époque-là. À Leria, en Corse, une tombe étrusque, cette fois-ci, donc un peu plus ancienne, qui a été découverte dans un caveau souterrain daté du IVe siècle avant notre ère. Et donc, ça montre l'extension et l'influence étrusque dans cette région. À Angoulême, très récemment, il y a une plaquette de paléolithique qui a été exhumée, donc il y a plus de 10 000 ans, sur laquelle on a des motifs d'animaux qui sont dessinés, donc il nous apprend des choses sur...
Ouais, c'est des formidables pistes de recherche. Il faut dire que l'archéologie préventive, partout dans le monde, finalement, ça met au jour un passé qu'on ne connaissait pas et qui est souvent un passé plus quotidien que ce qu'on imaginait, c'est
exactement,
ça
hein, c'est-à-dire, c'est une autre nouveauté de cette archéologie préventive, c'est que maintenant, on commence à s'intéresser à un passé récent, notamment par exemple pendant la Grande Guerre. On a retrouvé des graffitis pendant la Grande Guerre qui ont remis en perspective ce qu'on imaginait sur l'occupation de certaines zones, certaines casernes dans le nord de la France notamment.
Au plus près de nous, qu'est-ce que l'archéologie préventive peut nous apprendre? L'interview donc de Dominique Garcia est publiée dans La Recherche. On va retourner vers notre présent laborieux, Cécile Estienne, dans Cerveau et Psycho. Vous nous apprenez que le télétravail, c'est la santé.
C'est absolument la santé, du moins la bonne dose. Voilà. Nicolas Guéguen, qui est psychologue, a compilé toutes les études qui ont été publiées récemment sur le télétravail. Et ma foi, c'est fort intéressant. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les sondages, les employeurs sont souvent un peu inquiets parce qu'ils se disent comment je vais pouvoir surveiller mes employés.
Qui travaillent bien chez eux, qui font pas autre chose.
Mais en même temps, ils admettent qu'ils sont plus productifs. Donc, c'est un petit peu contradictoire, voilà. Et puis à l'inverse, les gens qui travaillent en télétravail ont aussi un petit peu peur que ça empiète sur leur vie familiale.
Leur vie privée, qu'il n'y ait plus de barrières.
Leur vie privée. Mais on s'aperçoit en tout cas qu'en France, il y aurait 25% des salariés du privé qui feraient du télétravail, mais seulement 4% régulièrement. Et puis c'est pas un vrai accord, c'est fait un petit peu comme ça. Donc, mais ça serait pourtant à développer, parce que les études montrent que malgré tout ce qu'on peut craindre, en fait, ça se passe plutôt bien. On peut craindre que le temps de travail empiète sur le temps de famille, que le stress de la vie professionnelle se répercute sur les enfants et le conjoint, qu'on se mette à gouverner ses enfants comme on gouverne ses collègues de travail, c'est pas toujours la bonne idée. Mais en fait, non. on s'aperçoit que à l'inverse, ça donne un sentiment d'autonomie, ce qui est très important pour le ressenti du bien-être. Ça enlève de la fatigue, évidemment, parce que souvent ça enlève du temps de transport, voilà. Et donc ça c'est vraiment absolument positif. Un autre chose positive, c'est que c'est bon pour la parité dans la maison. C'est-à-dire
parce que tout le monde, du coup, tout le monde doit mettre la main à la pâte.
Oui, c'est-à-dire le télétravail favorise le fait que les hommes prennent part aux tâches ménagères.
Ah ben ça n'est pas le moindre des bienfaits. Oui,
les hommes qui pratiquent le télétravail consacrent 40% plus de temps de plus aux tâches ménagères et familiales que normalement.
Ils sont
rien maison. Que pour ça, il faudrait pouvoir le développer.
Voilà.
Mais, oui. mais juste quand même quelque chose.
Un bémol.
Il y a un petit bémol, c'est pas tout le temps. En fait, le télétravail, c'est la santé. Si vous travaillez un jour, deux jours par semaine, ça c'est absolument parfait.
Et que vous gardez
parfait.
Une vie sociale voilà. et un lien avec votre
voilà.
travail.
Travailler toute la semaine chez soi, à part pour certaines personnes à qui ça doit convenir, ça peut être désocialisant.
À lire ce dossier sur le télétravail et peut-être à faire lire à nos employeurs, qui sait, c'est dans Cerveau et Psycho de ce mois de juillet. Et puis on va terminer, Carole Châtelain, avec un petit jeune, un petit nouveau chez Science et Avenir. Un nouveau-né, c'est
ça. Et c'est une excellente nouvelle parce que ce n'est pas si fréquent qui plus est dans la presse scientifique, puisque Science et Avenir se décline désormais pour les jeunes avec un magazine qui s'appelle Hashtag Science, Hashtag qui est le signe
dièse pour les anciens,
le
mais voilà.
Sociaux, et qui s'adresse alors aux jeunes au sens large, puisque nous allons de 11 ans à 93 ans. Voilà.
Avec des sujets particuliers ou des manières de les aborder
c'est la façon d'aborder les sujets qui va différer. C'est-à-dire que le magazine est très axé sur l'engagement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre jeunesse est vraiment engagée. On le voit dernièrement dans la lutte contre le réchauffement climatique pour faire bouger les gouvernements. D'ailleurs, notre une de Hashtag Science est consacrée à Greta Thunberg, qui est cette jeune femme qui
milite. La grande star des cours d'école. De collège tout, et à juste titre.
Voilà, mais tout le magazine est fondé sur cette idée d'engagement de la jeunesse, mais nous traitons de sujets très variés qui vont de l'histoire, par exemple avec la traversée actuellement des Alpes en armure qui est faite par des chercheurs, à la physique du sport, en passant par l'énergie et tout, même des jeux, etc.
Eh bien, bienvenue à Hashtag Science. Merci beaucoup, Carole Châtelain. Merci, Philippe Pajot. Merci, Caroline Toube. Merci, Cécile Estienne. Je vous rappelle, chers amis auditeurs et internautes, que quelques numéros de tous ces magazines, donc Science et Avenir, Science et Vie, La Recherche et Cerveau et Psycho, Cerveau et Psycho, oui, c'est ça, seront pour vous si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Avis aux amateurs. En attendant, je nous souhaite à nous tous et nous toutes pour une fois autour de cette table. Un très bel été. Je vous donne rendez-vous pour notre revue de presse de rentrée. Ce sera le 4 septembre prochain autour de vos magazines respectifs. Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi autour de la question, pourquoi le monde s'est-il offert des fleurs? Joli bouquet sonore en perspective avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.